Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives, musique juive d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et depuis quelques mois, les Juifs d'Algérie sont à l'honneur. Il y a en effet 50 ans, en avril 1962 précisément, les accords d'Évian entérinaient la fin de la guerre d'Algérie et la reconnaissance de cet État en tant que nation souveraine. L'indépendance de l'Algérie allait toutefois entraîner l'exode massif de plus de 800 000 personnes, principalement vers la France, et parmi ces exilés, de nombreux pieds noirs, mais aussi entre 100 et 150 000 juifs algériens, les chiffres varient, on le verra, fuyant un avenir incertain dans un pays où ils avaient pourtant vécu pendant presque 2000 ans. Après le déracinement et une difficile période d'intégration, les juifs algériens sont aujourd'hui une composante essentielle du judaïsme français. Et pour nous parler de cette communauté, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans notre studio l'historienne Anne-Hélène Houg, conservatrice au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Anne-Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Du 28 septembre 2012 au 27 janvier 2013, le musée d'art et d'histoire du judaïsme organise une superbe exposition donc consacrée aux juifs d'Algérie. Et c'est vous qui êtes un peu responsable de cette exposition, puisque vous en êtes la commissaire et vous l'avez organisée avec une charge de travail assez conséquente, je crois. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, nous la présenter ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, j'ai pris des conseillers scientifiques dont je vais tout de suite vous dire les noms. Il y a Raphaël Drahi, Benjamin Stora, Valérie Hassan, Philippe Landau, Jean Laloum et Jacob Oliel. Donc un très beau panel de connaisseurs sur différentes questions concernant l'Algérie. Ce qui m'a un peu rassurée, parce que l'entreprise n'était pas du tout donnée au départ comme gagnée ou comme réussie. Et puis, elle s'appuyait essentiellement, enfin l'articulation essentielle de cette exposition, dans la conception que j'avais de la chose, était la trace et la mémoire. Donc il s'agissait davantage d'une expo qui montrait ce dont nous nous souvenions ou ce que nous avions gardé, plutôt ce que nous savons en termes de savoir et historique, voilà. C'est-à-dire comment on peut accéder à cette histoire, resituer pour les jeunes qui ne l'ont pas connue ou pour les gens qui ne l'ont pas connue, cette histoire de 2000 ans, bimillénaire et plus que bimillénaire de la communauté des Juifs d'Algérie. Et ça s'appuyait sur les mémoires familiales. Donc l'entreprise a été assez inattendue en réalité dans l'ampleur qu'elle a prise.
J'imagine. Et parmi ces traces et ces mémoires, on pense souvent bien sûr au patrimoine matériel, des costumes, oui, j'ai vu l'exposition qui est superbe, des clés de maison, enfin voilà, mais aussi du patrimoine immatériel.
Bien sûr.
Et parmi ce patrimoine immatériel, bien sûr, la musique est présente. Et comme vous le savez sans doute, notre émission est quand même avant tout à teneur musicale. Et la musique est un prisme vraiment intéressant à travers lequel se révèle une société, son mode de fonctionnement, ses interactions avec l'environnement culturel, son histoire. C'est pourquoi je vous propose d'écouter dès à présent, et c'est ce qu'on fera tout au long de cette émission, des extraits de musique juive algérienne qui vont rythmer notre connaissance de ce monde juif algérien. Donc un premier morceau, extrait d'un tout nouveau CD consacré au chant des psaumes dans la tradition juive constantinoise.
Shir ma'alut li David, hine matobu manaim, أحيم جميع حد كشيم أتوب على روش يريد على زكان زكانارون شيريد على بيميدو تف كتار حرمون شيوريد الهار رسيون كي شام سفادنا يتبغحا خيم عاد علام.
Le psaume 133, Shirim Alot le David, Inematovum Anaim, Shevet Arim Gamiarad, chanté ici par Johann Bismuth, dans un tout nouveau CD apparaître dans la collection Patrimoine musicaux des Juifs de France de la Fondation du judaïsme français, un CD qui sera disponible dans les bacs à disquaires en janvier 2013, mais que l'on peut d'ores et déjà commander à l'Institut européen des musiques juives au 01 45 82 20 52. Je vous redonnerai le téléphone en fin d'émission. Anne-Hélène Houg, à quand remontent les premières traces d'une vie juive dans les territoires de l'actuelle Algérie ?
Ah, question extrêmement complexe. Alors, je vais en rester à vos termes, c'est-à-dire les premières traces d'une vie juive. Sur l'Algérie même, je serais incapable de vous donner une date exacte. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a des vestiges en Libye, donc sur, disons que l'arrivée sur la côte africaine, l'arrivée des Juifs est très ancienne et elle est progressive. Et les premiers éléments archéologiques que nous avons, c'est par exemple un sceau trouvé en Tripolitaine, donc en Libye, et qui date de la fin du 8e, début du 7e siècle avant notre ère. Donc là, nous avons la preuve d'un passage. Alors il faut distinguer le passage et l'établissement, bien sûr. Dans la foulée de l'arrivée des Phéniciens, ou je dirais de la colonisation phénicienne, qui consistait non pas à coloniser en termes, mais à établir des comptoirs commerciaux sur tout le pourtour méditerranéen, eh bien, on peut présumer que de nombreux Juifs ont suivi, c'est-à-dire que de nombreux habitants de des régions proches orientales ont suivi et sont montés sur les navires des Phéniciens pour aller commercer et les suivre sur leur comptoir. Ce qui suppose qu'à un moment ou à un autre, une famille s'est fixée, puis ensuite une communauté, etc. Alors dire à partir de quand nous avons des traces précises, c'est très difficile, mais ce qu'on peut... d'abord parce que nous avons un champ entier inexploré en Algérie qui part avec l'idée, si vous voulez... de mener une recherche concernant les Juifs. Les Occidentaux se sont d'abord intéressés dans leur fouille archéologique à l'histoire latine, à l'histoire punique, puisqu'elle intervenait dans l'histoire latine, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte les habitants de l'Afrique du Nord que dans la mesure où soit ils sont des gens comme Saint Paul ou Tertullien, c'est-à-dire des berbères convertis au christianisme, ou alors parce que il y a une interférence avec l'histoire romaine. Et là, il s'agit bien sûr des Puniques, de Carthage, et il est extrêmement peu question de s'intéresser à autre chose. Pendant toute la durée de la colonisation française, les archéologues ont essentiellement fouillé des lieux à la recherche de traces de tombes puniques, de la culture méditerranéenne romaine. Alors, on a longtemps pensé que les Juifs et les Puniques, enfin, il y a eu des confusions entre Phéniciens, Juifs et Puniques, Cananéens, Phéniciens et Juifs, etc. Donc, on est aussi dans un grand vague en ce qui concerne les terminologies utilisées par les auteurs anciens pour parler, et pendant longtemps, pour parler, en fait, des Juifs. Donc, il est très difficile de savoir. Mais cette arrivée des Juifs, en tout cas massive, dans l'espace algérien, c'est à partir de la chute du Second Temple, où on peut considérer. Puis il y a bien sûr les révoltes de Cyrénaïque, la révolte de Bar Korba. Tout ça, ce sont des grands moments d'arrivée, d'afflux de populations fuyant la Méditerranée orientale, puisque les Romains, à ce moment-là, les prennent sous leur coupe et répriment les révoltes juives.
Oui, je crois qu'on trouve au deuxième, au troisième siècle, peut-être à Sétif, la trace d'une première synagogue. Donc là, on a une trace absolument.
Alors, oui, mais ceci dit, on en sait très très peu de choses. Alors ça reste, c'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui pouvoir aller davantage chercher. En général, ces synagogues étaient des maisons particulières. Nous avons sur le premier siècle en Libye, mais aussi à Carthage, à Tunis, nous avons par exemple la synagogue de Hammamlif, qui est un lieu absolument merveilleux, où on voit des magnifiques mosaïques, et qui était une maison particulière qui faisait office de synagogue. Donc on a un culte, je dirais, discret, et cependant prosélyte, ce que dénoncent d'ailleurs les auteurs chrétiens tels que Tertullien, à la fin du second siècle. Et donc on a quand même une grosse interférence des Juifs avec le milieu berbère et punique très tôt, mais il est difficile de la dater. C'est précisément un sujet de recherche à ouvrir.
Très bien, alors rappel à tous les chercheurs intéressés par ce sujet immense.
Absolument, ouais.
Donc, il va se passer beaucoup de choses dans ce monde. On n'a pas le temps, évidemment, surtout que c'est une émission musicale, de faire le tour de l'histoire de ce coin du monde. Bon, bien sûr, on a la naissance de l'islam. Après, apparaissent à un certain moment de notre histoire des juifs dits séfarades. D'ailleurs, ces juifs algériens appartiennent à cette catégorie de juifs séfarades. Et d'un point de vue étymologique, séfarade fait référence à un terme hébraïque ancien qui désignerait la péninsule ibérique. Et selon la légende, les séfarades seraient donc les descendants d'une colonie juive établie en Espagne à l'époque du roi Salomon. Et ils y ont vécu en Espagne pendant presque 23 siècles, traversant les vicissitudes de l'histoire, c'était pas simple, jusqu'en 1391, date des premières conversions forcées au catholicisme. Puis après, ça a continué, malheureusement, jusqu'à l'expulsion forcée de tous les juifs d'Espagne déjà en 1492, puis 1497 du Portugal, et il me semble même 1498 de Navarre. Pourriez-vous nous donner quelques points de repère sur cette période où il y a, je pense, des contacts entre cette péninsule ibérique, ces juifs séfarades, et déjà donc les juifs qui vivent de l'autre côté, parce que c'est pas si loin que ça, on traverse le détroit de Tanger, puis après on va un petit peu sur la gauche, je dirais, par rapport à la carte.
Mais vous avez tout à fait raison de revenir sur Salomon, puisque effectivement, Hiram de Tyr envoie achète du bois pour construire des navires et pour aller jusqu'à les Phéniciens sont allés au 8e siècle déjà sur la péninsule ibérique. On y voit des traces telles que Elche et d'autres endroits. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut avoir des juifs qui se sont installés très tôt. Maintenant, la présence juive en Sfarad, en réalité, en Espagne, elle est toujours extrêmement mouvante, et voilà, elle est toujours liée à une façon très particulière et propre au bassin méditerranéen, et qui va d'ailleurs être caractéristique jusqu'à nos jours de l'histoire du bassin méditerranéen, c'est-à-dire une très forte circulation entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, le nord et les rives donc septentrionales et du sud. Et ce qui est certain, c'est que les Juifs ont des établissements un peu partout, c'est-à-dire là où on accepte qu'ils s'établissent, et que, par exemple, après l'arrivée, la conquête musulmane en Afrique du Nord, le califat omeyyade a été considéré comme une période absolument extraordinaire de déploiement, de circulation des sciences, etc., de connaissances, de circulation des savoirs, et ça n'aurait jamais pu se faire, nous n'aurions pas eu connaissance d'Aristote s'il n'y avait pas eu précisément une circulation des savoirs et des traducteurs juifs, entre autres, pour faire la traduction entre l'arabe et le grec et le latin. Donc cette activité culturelle, elle est visible d'abord par le savoir qu'on en retire, mais bien entendu, il y a tout un pan de l'activité commerciale et sociale qui est absolument crucial et dont il faut parler. L'expulsion des Juifs d'Espagne, au fur et à mesure que la Reconquista avance en Espagne, a déjà un grand temps qui est celle de 1391. L'année 1391, ce sont les premières persécutions des Juifs dans les espaces de la Reconquista, c'est-à-dire au nord de l'Espagne, et là où les États chrétiens ont déjà établi leur souveraineté. Et évidemment, il y a là un moment d'intolérance et d'inquiétude pour ne pas compromettre la reconquête. En réalité, on peut imaginer que les deux rives sont extrêmement tendues, c'est-à-dire autant les musulmans de l'autre côté de la ligne qui sépare la Reconquista du royaume musulman. Et il y a toujours dans cette période-là des temps de durcissement extrêmement forts. 1391, c'est la persécution mémorable pour l'Algérie. Oui, voilà, le rabbin Simone Bar-Tzemar Duron arrive à Alger avec également le rabbin Isaac Bar-Shechet. Ils viennent de la région nord, c'est-à-dire de Majorque, et il y aura également l'arrivée du rabbin Ankawa. Les grands rabbins réformateurs du judaïsme, donc les grands séfarades, arrivent après 1391. De l'Espagne, et non en 1492, justement. C'est ce qui distingue les deux types d'immigration. 1492-1497, on passe par le Maroc. D'accord. Pour aller à Tlemcen ou Fès.
Et voilà. Et cette Espagne est restée dans l'imaginaire de ces Juifs algériens. Elle est toujours présente. Et pas que d'ailleurs. L'Espagne, c'est pas que les Juifs. Chez les musulmans aussi, l'Andalousie, c'est vraiment, on parle de musique arabo-judéo-andalouse. C'est une musique.
Et donc, une langue aussi.
Absolument. Et je vous propose d'écouter cette Andalousie mythique illustrée par une chanson de Salim Alali, Andalusia.
عشقت في الأندلسية صغيرة شبه خمورية يا محلى داك الزين العين الحواجب مقرونين شوفتها تسحر في الحين خلي العاشق في بلية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية شعرها طويل مخبل ما عرفت كيفاش المتل الصبح مخلوق مولايا عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية عاشق ما تلومش عليا عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية
Andalusia, chanté par le grand, l'unique Salim Halali, extrait d'un CD Trésor de la chanson judéo-arabe. Anne-Hélène, je pense que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette période tellement importante, cette influence de l'Espagne. Je vous laisse la parole dessus.
Oui, je pense en ce qui concerne la musique, il y a aussi dans cette circulation des hommes, par le commerce, par l'échange culturel, il y a aussi de très nombreux instruments de musique qui vont venir de l'Orient et également de l'Afrique subsaharienne. Et donc on voit là en Afrique du Nord. Et dans cet espace méditerranéen, s'épanouir un syncrétisme musical avec des spécificités locales ou linguistiques très, très intéressantes, parce que précisément, cette diversité qui se concentre autour de ce monde d'échange, de ce carrefour, fait que on a aussi beaucoup d'argent. Les gens commandent des musiques pour leur communauté, mais pour leur plaisir personnel. Et on a peu de traces de cela, mais je pense que dans cette société extrêmement active et très conviviale, parce que faire du commerce, ce n'est pas simplement être derrière son comptoir, mais c'est aussi recevoir les espaces, les caravansérails, la vie sociale est très active pour justement faire des affaires. Et je pense que ce monde social-là est un monde aussi de culture. Et les traces en sont gardées, c'est pour ça qu'on les garde aussi bien d'ailleurs, c'est parce qu'il y a comme ça, la musique est presque un rite de convivialité dans cet espace d'Afrique du Nord, dans l'espace oriental qui est absolument indissociable de l'échange des affaires, je dirais.
Et je voudrais même ajouter à ce que vous dites qu'en tant que musicologue, on connaît l'Espagne comme ce pays des trois religions, mais les Juifs ont souvent servi de passeurs entre le monde musulman et le monde chrétien, et notamment au niveau des instruments de musique. Alors, lors d'un colloque auquel j'avais assisté, j'avais appris, et ça avait été un peu une révélation, beaucoup d'instruments de musique, bon, on le sait, la guitare, mais tous les instruments de musique qui ont donné lieu de la famille des luths, au violoncelle, etc., viennent donc de ce monde oriental, sont passés à l'Occident via justement l'Espagne et via les Juifs. Et justement, une des premières écoles de violon qui se sont établies en Italie, même les ancêtres des Stradivarius et tout, étaient pour beaucoup des luthiers qui étaient des Juifs en fait originaires d'Espagne, qui avaient été chassés d'Espagne en 1492.
Je pense que c'est un domaine qu'il faut vraiment... moi j'adorerais faire une exposition sur justement l'échange des savoirs, des cultures et le rôle des Juifs dans cette partie-là, au Moyen-Âge, parce que précisément c'est un domaine si peut explorer.
Ah oui, et puis il y a vraiment de quoi découvrir.
Il y a de quoi faire.
Oui, tout à fait. Et alors, donc là, nous sommes en Espagne, on a vu qu'il y a des échanges. Du point de, donc, dans la partie musulmane, et notamment en Afrique du Nord, les juifs sont quand même soumis à des statuts particuliers, notamment le statut de dhimmi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit?
Alors, il y a deux façons de voir ce statut. C'est un statut, deux façons qui sont concomitantes, je dirais. Le statut de dhimmi, c'est celui qui est assujetti. Ce n'est pas un statut officiel en tant que tel. Nous n'avons pas un texte qui dit la dhimma, etc. C'est un statut qui assujettit les juifs à la loi coranique, c'est-à-dire qui ne leur concède pas, qui les tolère parce qu'ils font partie du halal kitab comme les chrétiens, c'est-à-dire le peuple du livre, mais en même temps, ils ne sont pas des croyants. Dans la mesure où l'umma, ou la communauté des croyants, est une communauté considérée comme une communauté égalitaire, hein, dans l'islam, et que donc on ne peut pas, si on n'est pas dans cette communauté-là, être à égalité. On ne peut pas avoir les mêmes droits. Et il est certain que la finalité, c'est que, à la fin, tout le monde devienne musulman. Et donc, les juifs n'ont pas le droit de monter à cheval, n'ont pas le droit de porter des armes, doivent s'habiller comme ceci ou comme cela, leurs synagogues n'ont pas le droit d'être sur un point haut de la ville, etc. Il y a énormément ils payent une capitation particulière, l'impôt sur les personnes. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ce statut de dhimmi varie selon les périodes politiques et économiques, et que donc il peut y avoir de très cruelles persécutions et répressions, comme il y a également des moments d'épanouissement et d'échanges très florissants.
Et donc, justement, c'est ce que vous venez de dire, malgré ce statut peu favorable, les Juifs du Maghreb ont activement participé à la vie culturelle et notamment musicale de leur pays. Le musicologue Amnon Shelohar, spécialiste des musiques juives dans les pays arabes, dit, je le cite, que partout à travers les âges, des musiciens juifs se sont distingués au sein des sociétés islamiques environnantes, à la fois comme interprètes virtuoses, artistes, créatifs ou même compositeurs. Leur rapport avec leurs collègues et leur auditoire non juif se caractérisait en général par un esprit communautaire. En effet, les uns et les autres se sentaient appartenir à une société d'artistes partageant le même vécu émotionnel et pratiquant la musique comme un genre de vie, conformément aux mêmes normes théoriques et expressives. En clair, et c'est ça qu'il me semble, vraiment important d'insister sur le fait suivant, c'est que juifs et musulmans partagent le même système musical, les mêmes modes et souvent les mêmes répertoires. Et un musicien peut parfaitement chanter avec un rabbin ou avec un chantre, alors que un juif algérien ne pourra pas joindre sa voix à un juif d'Europe de l'Est, par exemple, tout simplement parce que même si la langue hébraïque leur est commune, ils n'utilisent pas du tout le même langage musical. Un autre fait important est relatif à l'interpénétration des répertoires. Les musiques sacrées et musiques profanes utilisent très fréquemment le même langage musical qui s'abreuve aux sources de la musique dite andalouse dont on a parlé, ou arabo-andalouse. Cette musique qui donc trouve ses traces dans les cours de Bagdad, d'Alep et d'Amas, avant de s'installer dans l'Espagne médiévale musulmane, Al-Andalus, la fameuse Andalousie qu'on a entendu chanter tout à l'heure par Salim Lali, avant de revenir se fixer au Maghreb. Et on va entendre dès à présent un exemple de cette musique arabo-judéo-andalouse, il y a énormément de termes possibles, mais en tout cas andalouse, interprétée par le grand, l'unique Cheikh Raymond.
الفنانات اليوم فون شيخ ريمون قسطنطيني ورباتو الله عليك يا ابن كرطوطة
واشدعى قلبي يا عشاق هو ملاء علي وصاله هو ملاء علي وصاله وزاد قد قلبي بعشقا هو غرى امي ولحبي هب المليح بين شبقا هو عيبي
Gelbi Yawameh. Je ne sais pas si je prononce bien l'arabe, c'est encore pas ma spécialité, mais c'est promis, je vais m'y mettre. Donc, par Cheikh Raymond, accompagné de ses musiciens, notamment Sitar Ben Kartoussa, qui l'annonce au début, comme ça se faisait beaucoup dans les 78 tours, on annonçait l'interprète principal. Donc, c'est un 78 tours historique, c'est le premier enregistrement, peut-être qu'on y retrouvait, de 1937 de Cheikh Raymond. Et Cheikh Raymond, il était vraiment considéré comme l'un des plus grands interprètes de la musique savante algérienne, cette musique qu'on appelle Malouf. On a consacré déjà une émission à Cheikh Raymond dans le cadre de notre série. Et c'était un excellent joueur de oud, un chanteur avec une voix absolument somptueuse et qui a très vite a été attiré par la musique des foundouks, donc ces sociétés secrètes où avait lieu une intense pratique musicale profane. Et il est devenu très vite un maître en quelque sorte de cette musique. Il a créé son propre orchestre, ce qui n'était pas souvent le cas à l'époque. En fait, on se réunissait un peu selon les occasions parce qu'il avait un degré d'exigence extrême. Et ses interprétations restent absolument légendaires à tel point que l'on prétendait que lorsqu'il jouait à la radio ou à la télévision, les rues se vidaient. Voilà. Anne-Hélène Houg, savez-vous que de nombreux musiciens juifs se sont donc illustrés dans ce domaine de la musique classique arabo-andalouse ? Et parmi eux, je voudrais citer le nom de Edmond Nathan Yafil, qui est peut-être peu connu, mais qui est quand même un des pionniers. Il est né à Alger en 1874 et Yafil, comme tous les musiciens de son époque, a commencé à fréquenter les cafés maures de la Casbah du vieil Alger. C'était dans ces cafés que se perpétuait donc la tradition de la musique andalouse qu'on appelait Sana. Et c'est là donc qu'il écoute les grands maîtres, et notamment le dernier grand maître du musulman du 19e siècle, Mohamed Ben Ali Sfinja, qui est décédé en 1908. Et donc ce maître le prendra dans sa troupe, qui comptera des musiciens de renom. Et en 1898, on est dans le courant orientaliste, le musée d'art et d'histoire du judaïsme a consacré d'ailleurs une exposition à l'orientalisme, et donc le musicologue Jules Rouanet est chargé d'effectuer des recherches sur la musique arabe. Et il désigne alors Yafil comme interprète, parce qu'il avait des problèmes de communication, il ne parlait pas bien l'arabe, pour communiquer notamment donc avec son maître Sfinja. Et Yafil a profité de cette collaboration donc pour s'initier à la transcription musicale, et ça lui a permis de transcrire des centaines et des centaines d'airs andalous qui ont été déposés d'ailleurs à la SACEM, ce qui lui vaut d'être cité aujourd'hui comme compositeur. Et de plus, il a fondé vers 1909 une école de musique arabe. Il a créé une association, l'association El Moutribia, qui était d'ailleurs essentiellement juive à ses débuts, mais qui rapidement va s'élargir à tous les publics, et qui, cette école est l'embryon, je dirais, de l'éducation musicale de l'Algérie. Et si bien qu'en 1922, Yafil se voit attribuer la chaire de musique arabe, il faut quand même le voir, donc musicien juif, au conservatoire, parce qu'il est considéré comme le seul musicien réunissant les conditions et comme l'unique expert de l'art andalou. Et il décède en 1928 et reste un des maillons incontournables de la tradition musicale algéroise. Il a notamment fait enregistrer beaucoup de disques, il a fixé des voix pour l'éternité, un rôle très très important. Et je vous propose d'écouter justement un de ses enregistrements, un de ses disques, c'est Edmond Yafil et son ensemble, dans un enregistrement historique de 1910, Zindani Shti. Un extrait de Zindani Shti, donc interprété par Edmond Yafil et son ensemble, un enregistrement de 1910, dans un disque qui s'intitule Mélodie judéo-arabe et d'autrefois, Maghreb et Moyen-Orient. Anne-Hélène Hougues, en 1830, débute la conquête de l'Algérie par la France. Elle s'achève en 1848 par l'annexion de l'Algérie à la République française. Et à cette époque, près de 20 000 juifs, le chiffre n'est pas forcément exact, mais environ, vivent en Algérie. Comment vivent-ils ce changement de régime ?
D'une manière extrêmement diverse, précisément, parce que la réception de l'arrivée des Français n'est pas la même selon que l'on vive proche du littoral et des grandes villes telles qu'Alger ou Oran, ou au contraire à Constantine ou dans des régions plus éloignées. En tout cas, l'arrivée des Français va imposer très très rapidement, et notamment par l'action du consistoire et de la communauté juive française, un modèle culturel qui va être à l'origine d'une création assez hybride, d'un syncrétisme assez fort avec la culture occidentale. C'est-à-dire que très vite, nous allons voir les enfants de ces familles juives algériennes s'initier au dessin, à la musique, au piano, notamment, ou à d'autres instruments, comme ils s'initient à la littérature française, à la langue française. Voilà, ça devient un critère culturel qui n'était pas exceptionnel quand même chez les juifs, parmi les grands négociants, les familles de grands négociants ou des notabilités juives qui étaient déjà au contact des Français auparavant par l'intermédiaire de leurs activités professionnelles. Donc il y avait un statut, par exemple les Canouilles à Oran, enfin les Oranais étaient déjà très 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 italien, par exemple, très proche de l'Italie, comme les Tunisiens, une partie des Tunisiens en tout cas. Donc cette culture occidentale n'est pas étrangère. Mais effectivement, il va y avoir une sorte de création nouvelle qui est pratiquement la seule que nous connaissions réellement aujourd'hui. C'est-à-dire que autant les objets que les choses qui nous restent, les synagogues ou d'autres choses, sont des choses qui datent du 19e siècle.
Et alors cette influence de la France va également pénétrer le domaine liturgique, puisque dans cette Algérie désormais française, le judaïsme algérien est réorganisé sur le modèle consistorial du judaïsme français. Trois consistoires centraux sont créés le 9 novembre 1845 à Alger, Oran et Constantine. Mais il faut noter qu'ils sont chapeautés par des grands rabbins originaires de France et de culture ashkénaze de plus. Et cette influence va être encore accrue sous le Second Empire, puisqu'en 1867, le consistoire d'Algérie est purement et simplement supprimé, et le grand rabbin de France devient grand rabbin de France et d'Algérie. Seuls subsistent des consistoires locaux. Et tout ceci va avoir une influence sur la musique, puisque on va trouver dans la liturgie algérienne qui évolue des airs français et des airs notamment séfarades. Alors quand on parle de séfarades, on pense au rite portugais de français, celui qu'on a à Bordeaux, Bayonne et aujourd'hui à la synagogue de la rue Buffault, mais également des airs contadins, donc une musique totalement différente dont je vous propose d'écouter dès à présent extrait, donc un extrait issu de la musique liturgique des Juifs de Tlemcen, Adonai Bekol Shofar, l'office du matin de Rosh Hashanah, suivi d'un air liturgique Bemotzei Yom Menucha qui vient de la Haftala, chanté par Philippe Darmon et Maurice El Medioni.
Adonai Bekol Shofar Yashmiya Yeshua Lekabes Sepezura בבוחר יום תשועה, על האלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר, אדוני בקול שופר, קול משמיים על הר הקודש ועל ירושלים, ואז כאן נת ימינך תהי כמראש נטועה, על האלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר, אדוני בקול שופר. Thank you.
أخيل علي
d'entendre deux airs, un air liturgique des Juifs tlemcéniens et le dernier air, donc interprété par Philippe Darmon et Maurice Almidioni dans le rite algérois. On voit une différence, un élan très clair au niveau même musical entre ces deux airs. Le premier étant totalement influencé, c'est un air de Bordeaux, Bayonne, portugais. Le deuxième étant beaucoup plus traditionnel, on a ces mélismes de la musique arabo-andalouse. Et je crois que vous vouliez nous dire quelque chose sur cette résistance.
Oui, la résistance des musiques et même des liturgies traditionnelles est tout à fait intéressante. Je pense par exemple à la communauté du Touat qui a été massacrée en partie, qui est partie en exil. Donc le Touat, c'est au sud, dans la région du Sahara, au sud du Maroc et de l'Algérie, autour de la fameuse ville de Tamantit. Et en 1492, comme par hasard la même année que l'expulsion des Juifs d'Espagne, les Juifs du Touat, une communauté remarquable, prospère et savante, s'exilent sous peine de mourir. Donc, et certains remontent vers Colombéchard, par exemple. C'est pour ça qu'à Colombéchard, on retrouve des traditions touaties, notamment dans la liturgie. Et il y a, par exemple, des airs qui ont été composés, qui sont encore interprétés aujourd'hui, avec des poèmes dédiés au grand rabbin du Touat, Shalom Berero, Bar Berero. Vous avez ainsi des résistances qui se marient extrêmement heureusement. Et je crois que ces espaces de cosmopolitisme et de rencontre sont aussi des grands espaces d'essai. C'est-à-dire qu'on fait l'expérimentation et les gens sont très ouverts pour écouter des choses nouvelles.
On aurait envie d'en dire tellement sur... C'est tellement riche ce judaïsme algérien. Malheureusement, notre émission passe très très vite. Et donc, cette émission donc ne serait pas complète si nous n'abordions pas les chanteurs juifs algériens qui ont largement contribué au rayonnement des chansons populaires, parfois qualifiées de franco-orientales, franco-arabes, franc-arabes ou judéo-arabes. Il y a parfois des polémiques sur les termes parce qu'ils ne sont pas totalement neutres. En tout cas, dès les années d'avant-guerre, Lili Labassi, un des plus grands musiciens du Chaabi algérois, enregistrait les premières chansons mêlant français et arabe. Et à partir de la fin des années 40 et jusqu'à l'aube des années 60, Lili Labassi a été suivie par toute une nouvelle génération de crooners, de chanteurs qui ont transposé la variété française dans la culture populaire d'Algérie. Un exemple, Bambino, la chanson de Dalida, est adaptée en arabe par Lili Boniche, qui avait reçu pourtant une formation très traditionnelle auprès de Saoud Loranais, et le fantaisiste Blonblon imite Maurice Chevalier en chantant les merguez, tandis qu'à Paris, un autre musicien juif d'Algérie, Youssef Hajjech, compose l'oriental. Il faut noter que les musiciens juifs ne sont pas les seuls à se lancer dans la variété. Des Algériens musulmans adaptent également les grands succès parisiens, comme Maïdine Bentir avec sa chanson Anna Bouali, qui reprend la chanson des compagnons de la chanson Marchand du Bonheur. Et je vous propose d'écouter tout de suite deux extraits, justement Blonblon, les merguez, et Bambino, adapté par Lili Boniche.
Bye.
bonsoir chérie. Elle me dit pour qui me prenez-vous? Ah, je lui dis pour un Scooby-Doo. Elle me dit alors ça change tout. Je lui dis on va boire un coup. Elle me dit maintenant j'ai faim. Tu sais ce que je mangerai bien? Oh dis, c'est pas du hasman ça mon ami. C'est des merguez, couscous et la tchouk-tchouka. Après ça, un kawa, on dansera la bossa nova. Aïwa le merguez.
حزين مشغول البال شافك النوم دات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له عينك يبكى وتظهر حليه مشغول حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور.
La célèbre chanson Bambino, interprétée par Lily Boniche, extrait du CD Lily Boniche, trésor de la chanson Judé Arabe, qui était précédée de la chanson Les Merguez, extrêmement savoureuse, chantée par Blon Blon. Anne-Hélène Houg, je crois que vous voulez justement parler de cette chanson, ou plutôt des chansons de
oui,
la rue.
Oui, je pense qu'il faut beaucoup insister sur le fait que l'espace de la rue, qui est l'espace partagé par tous, a encouragé, bien entendu, a été par excellence celui où la musique, t'as des chansons comme Bambino, c'est-à-dire avec les influences espagnoles qui plaisaient aux colons espagnols, les influences italiennes, les influences arabes, tout ce monde-là coexistait et les musiciens répondent à ce, sont totalement un miroir de cette société. Et le grand humour, c'est que justement, tout le monde s'amuse beaucoup. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Et quand on parle de musique savante, c'est plutôt une question de moment que d'élite, si vous voulez. C'est-à-dire que les élites s'amusent aussi beaucoup. Mais seulement, ça dépend de l'endroit où on va et ça dépend du moment où on est. Par exemple, vous pouvez avoir aujourd'hui la chanson « Les gens du Nord » d'Enrico Macias va servir aussi à chanter les Radodi dans une des synagogues que je connais à dans la rue d'Audeauville et ce n'est absolument pas considéré comme quelque chose de déplacé.
Alors, puisque justement, vous nous parlez d'Enrico Macias, qui est le dernier représentant de cette chanson orientale, ou presque, enfin, il y en a d'autres encore, mais le grand représentant, nous allons entendre, pour finir cette émission, une chanson un peu culte, une chanson qui résume un peu tout ce qu'on a entendu. Il s'agit de l'orientale, tout au moins le début de cette chanson.
Critique ma vie mais on aime m'accompagner. À tout instant, mon cœur s'attache, mon cœur joue à cache-cache.
Nous sommes obligés de couper là, Enrico. Il y aurait tant de chanteurs à entendre. Salim Alali, on l'a dit, José de Souza, Maurice Elmedioni, Lily Boniche et tant d'autres encore. Mais malheureusement, notre émission touche à sa fin. Et je tiens à remercier infiniment Anne-Hélène Houg pour nous avoir apporté sa lumière, ou plutôt ses lumières sur les Juifs d'Algérie.
Merci à vous également.
Et j'encourage vraiment nos éditeurs à aller voir cette superbe exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Parmi les manifestations liées à cette exposition, je vous invite vivement à réserver votre après-midi du dimanche 9 décembre 2012, donc au musée, à 15h pour une conférence que je présenterai sur les musiques des Juifs d'Algérie, et là nous aurons peut-être un peu plus de temps pour entendre des extraits, et suivi à 17h d'un concert absolument unique de musique traditionnelle et liturgique juive algérienne, avec notamment donc Philippe Darmon, Johan Bismuth qu'on a entendu, Ilan Zarbi, Paul Sultan et son orchestre. Pour tout renseignement, vous pouvez donc contacter le MAJ au 01 53 01 86 53 ou le Centre français des musiques juives au 01 45 82 20 52. Je répète, 01 45 82 20 52. C'est également à ce numéro de téléphone que vous pourrez, si vous le souhaitez, commander en souscription le nouveau CD sur les psaumes des Juifs de Constantine que vous avez entendu au début de cette émission. Au prix de 16€, c'est le prix de souscription. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez la réécouter ainsi que toutes les précédentes sur notre site www.cfmj.fr ainsi que sur le site judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique que je remercie infiniment. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Roten.
My sugar!
I'm my sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild.